France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La tension reste forte et l'enquête se poursuit aux États-Unis. 4 jours après des tirs à balles réelles sur un père de famille, un Afro-Américain âgé de 29 ans. Il a reçu 7 balles dans le dos et pourrait être paralysé à vie. Hier soir, quelques centaines de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées dans le Wisconsin à Kenosha. Et puis les stars de la NBA, le championnat américain de basketball, ont même refusé de jouer cette nuit en soutien à Jacob Blake. C'est le tournoi final de la saison. Idem pour un tournoi de tennis à Cincinnati qui a été suspendu. Aux États-Unis encore, les vents violents pourraient provoquer une montée des eaux en Louisiane et dans le sud du Texas. Ces deux États américains seront frappés aux alentours de 8h heure française tout à l'heure par un ouragan, l'ouragan Laura. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous analyserons les annonces de Jean-Michel Blanquer, ministre français de l'Éducation nationale. Après avoir présenté le protocole sanitaire en cas de virus à l'école, il a hier affirmé que les programmes ne changeraient pas cette année. Et ce, malgré le confinement, les retards et les éventuelles difficultés des élèves. Réaction de syndicats dans une demi-heure. Sachez d'ailleurs que la circulation active du virus inquiète certains de nos voisins européens. La Belgique ajoute ainsi Paris à sa liste des destinations européennes interdites, à moins de se soumettre à un test de dépistage et de se placer à l'isolement. La capitale française rejoint les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault et des Alpes-Maritimes. Un déplacement en Irak pour la ministre française des Armées. C'est la deuxième visite de Florence Parly à Bagdad en 6 semaines. Elle doit s'entretenir avec différents responsables politiques. La lutte contre le terrorisme sera évidemment évoquée. Et puis cette information du petit matin, il y a quelques minutes, le tueur des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande a été condamné à de la prison à vie, sans possibilité de libération. Une décision saluée dans la foulée par la première ministre du pays, Jacinda Ardern. Plus d'informations à 6h30.
Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
L'histoire s'écrit tous les jours sur France Culture. Xavier Mauduit.
Ce fut une explosion gigantesque. Une ville, un peuple ont été blessés et même au-delà. Pourquoi une telle émotion ? Le cours de l'histoire fait escale dans un port millénaire, Beyrouth, au Liban. Combien de fois cette ville a-t-elle été meurtrie pour toujours se relever ? De l'antique port phénicien au grand Liban français, de la ville mémoire à la guerre civile, Beyrouth est une ville qui ne cesse de se construire et de se reconstruire.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. 6h03 sur France Culture. Toufik Hakem sera à vos côtés dans quelques minutes pour le réveil culturel. Mais avant cela, le lapin est à l'honneur dans le monde vivant avec Bruno David.
En retard, toujours en retard, clame le lapin blanc tout en regardant sa montre et en emmenant Alice vers le pays des merveilles. En tout cas, s'il est bien un domaine où les lapins ne sont pas en retard, c'est celui de la reproduction. Ne dit-on pas « se reproduire comme un lapin » ? En effet, le lapin de Garenne, Oryctolagus cuniculus, est capable de faire jusqu'à 5 portées de 12 petits par an. Je sors ma calculette. Soit 2 lapins, mâles et femelles, dans des conditions optimales. À la fin de l'année, ils se retrouvent près de 500, les premiers-nés ayant à leur tour commencé à se reproduire. Dans la nature, une très forte pression de prédation par les renards, rapaces, serpents, etc. régule cette abondance. Sauf si les lapins arrivent dans une contrée dépourvue de leurs prédateurs naturels. Cela a été le cas dans l'archipel des Kerguelen, où les lapins ont presque fait disparaître 2 plantes endémiques, le chou des Kerguelen et l'azorel. Mais c'est l'Australie qui est l'emblème de l'invasion, et le mot n'est pas trop fort. La souche dont on garde la trace dans les populations d'aujourd'hui est celle de 24 garennes, introduites en 1859. Des garennes anglais qui descendaient eux-mêmes de lapins français, débarqués au XIIIe siècle en Angleterre, comme l'indique une étude génétique qui a comparé les lapins de France, Angleterre et Australie. En 50 ans, cette souche franco-anglaise particulièrement prolifique engendrera 600 millions d'individus. Les dégâts furent considérables sur les plantes sauvages, les pâturages et, par effet de cascade, sur les espèces animales herbivores. Des mesures de contrôle furent entreprises. Empoisonnement, piégeage, clôture, destruction des terriers, arrivée de renards et de furets. Finalement, le virus de la myxomatose a été introduit en 1950. Cette introduction causa effectivement une réduction massive des populations, même si au bout d'un certain temps, la mortalité due au virus a décliné. On estime qu'il reste désormais 300 millions de lapins en Australie. Le lapin n'est pas seulement prolifique, il est aussi l'objet de superstitions. Parler d'un lapin sur un bateau porterait malheur. Cette superstition proviendrait d'une époque où l'on embarquait des lapins à bord pour s'en nourrir durant les longues traversées. Des lapins échappés auraient alors rongé les cordages. En outre, sur les navires en bois, le calfatage des planches se faisait avec de l'étoupe de chanvre. Les lapins, en les rongeant, auraient créé des voies d'eau. Cette explication a des points faibles. En effet, les bateaux de jadis transportaient aussi et surtout des rats, qui rongeaient tout aussi efficacement le chanvre. Et il n'est pas interdit de parler de rats sur un bateau. Le tabou du lapin chez les marins s'enracinerait plus profond, dans le symbolisme médiéval judéo-chrétien. Le lapin y est considéré comme démoniaque, notamment en raison de ses fréquentes fornications. Et nous revoilà avec la cause de leur prolificité.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, tous les jeudis c'est l'actualité des musiques populaires dans le réveil culturel. Et aujourd'hui on va parler de DJ Snake et d'essayer de comprendre les raisons du succès phénoménal de ce jeune français des quartiers populaires qui a conquis la scène pop mondiale et collaboré avec les plus grandes stars internationales. Justine Bieber, J Balvin, Selena Gomez, Lady Gaga et j'en passe. D'ailleurs si on s'amusait à compter les milliards de vues et d'écoutes sur les plateformes pour chaque tube qu'il a produit, on peut aisément conclure que DJ Snake est aujourd'hui un des artistes, sinon l'artiste français le plus écouté au monde. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, jeudi 27 août 2020, à 21h, on peut voir le grand concert parisien de DJ Snake dans quelques salles de cinéma. C'est une première. On revient sur la carrière de DJ Snake en compagnie du journaliste Mehdi Maizi, mon invité ce matin, spécialiste du rap et des musiques urbaines actuelles.
Le réveil culturel. Jeudi. Musique.
Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est historique. Bienvenue à Paris.
C'était un peu le retour au pays de l'enfant prodige. DJ Snake était en concert le 22 février dernier à Paris, moins d'un mois d'ailleurs avant le confinement, et il pouvait réunir 40 000 fans. Et c'est ce concert filmé par plusieurs caméras qui sera donc projeté ce soir à 21h dans plusieurs salles de France, Belgique, Suisse, en attendant le reste du monde. Bonjour Mehdi Maizi, c'est la première fois qu'on assiste à ce genre de concert qu'on va voir au cinéma.
Bonjour, oui, c'est la première fois, mais après, DJ Snake, c'est aussi quelqu'un qui est coutumier des premières. C'est, comme vous le disiez, un des premiers Français qui rencontre ce succès-là internationalement. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui aime bien être le premier à faire les choses. Donc, mais c'est vrai que c'est un véritable événement, ouais.
Alors, on va parler, bien sûr, de la success story, hein, parce que c'est quand même l'histoire d'un garçon ici, d'un quartier populaire, de mère algérienne, de père français forain, mais qui va abandonner très vite la famille. Il va grandir en écoutant du hip-hop. Il commence en vendant des disques aux puces de Clignancourt. Très vite, il se fait repérer par les DJ. À 17 ans, il est l'ami de ces DJ qu'il avait vu d'ailleurs sur grand écran dans le film La Haine. Absolument. Et ça va beaucoup le marquer.
Absolument. Mais c'est d'ailleurs marrant parce que cet épisode-là, l'épisode que vous parlez, notamment le film La Haine, c'est une scène en fait dans le film où on voit Cut Killer qui mixe voilà, dans une grande barre. Une barre HLM et mix pour la cité. Et c'est intéressant parce que cette scène-là, elle a marqué beaucoup de DJ. Beaucoup de DJ hip-hop, rap, disent que finalement, c'est en voyant Cut Killer, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc, des DJ, on n'en voit pas tant que ça si on n'est pas dans les soirées où il faut être. Effectivement, ce moment-là a été fondateur pour DJ Snake. Maintenant, aujourd'hui, il a fréquenté Cut Killer, il le connaît, etc. Mais à l'époque, c'est un héros pour lui. Et c'est aussi important de rappeler, parce que DJ Snake, maintenant, il est plus gros que le rap. Et il y a DJ dans son nom, mais on oublie qui vient de ce truc-là. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a mixé au bain douche pendant longtemps et qui était vu comme un DJ technique. C'est-à-dire, dans le milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment un prodige du DJing. Maintenant, c'est quelque chose qu'il a un peu quitté pour s'orienter vers la production, vers la composition et faire sa propre musique. Mais à la base, c'est vraiment un amoureux du rap, du hip-hop, et c'est quelqu'un qui passe sa vie à scratcher et à passer les derniers sons de rap à la mode. Donc c'est vraiment quelqu'un effectivement qui vient de ce terrain-là. Et d'ailleurs, il a fait un peu toutes les disciplines, hein, parce qu'il a aussi été graffeur, il a fait du graffiti pendant longtemps. C'est d'ailleurs de là, a priori, d'où lui vient son surnom, DJ Snake, parce qu'en fait,
c'est un serpent, oui.
Oui, parce qu'en fait, le graffiti, souvent, quand on graffe, on graffe dans des endroits où on n'a pas vraiment le droit de graffer, et donc il faut échapper aux autorités qui pourraient être là pour nous réprimander. Et apparemment, lui, il échappait particulièrement bien, et c'est que ses copains l'appelaient le Snake, quoi. Voilà, il s'échappait comme un serpent. Et donc, c'est de là que lui viendrait DJ Snake. Il dit, bon, c'est un nom un peu pourri, mais de toute façon, c'est trop tard maintenant. Voilà, les gens connaissent comme ça.
Alors, on va écouter justement la musique produite par ce DJ Snake. Des voix accélérées, de l'infrabasse qui frappe très dur, des breakbeats agressifs qui s'enchaînent. Comment définir cette musique de DJ Snake qui a conquis la planète entière, Maddy Maizy?
Pour moi, c'est un des meilleurs symboles, je crois, de ce qu'est la musique aujourd'hui. C'est-à-dire, on a beaucoup de mal à mettre des étiquettes sur les genres musicaux aujourd'hui. C'est-à-dire que le rap va puiser dans la musique nigériane, par exemple, la pop est infusée de musique latine, etc. Donc en fait, maintenant, j'ai l'impression que les genres sont les barrières entre les genres sont tombées et que parfois c'est très compliqué de savoir ce qu'est un artiste pop. La pop d'aujourd'hui est souvent un mélange d'énormément de sous-genres. Quand je dis sous-genres, il n'y a pas rien de péjoratif, on va dire de genres qui viennent l'infuser et qui viennent la recomposer. Et Snake, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est non pas dur à définir, mais disons que l'origine de sa musique vient bien sûr du rap. Et là, sur ce morceau-là, il y a un peu tout DJ Snake est résumé là. Il y a du rap, puisque Lil Jon, qui est une légende du rap des années 2000, qui est invité ici. Donc il y a un côté effectivement rap. Et en même temps, c'est aussi électronique. On est post-EDM, donc post les DJ comme Skrillex, des artistes comme ça, qui vont un peu changer la musique électronique au début de la décennie passée. Donc il y a ces résidus là, on va dire, en cette musique là plus la musique électronique française dont il est également héritier. Il en a souvent parlé, mais la French Touch bien sûr, mais aussi quelqu'un comme DJ Mehdi qui est regretté aujourd'hui, mais qui était un des premiers à faire ce pont justement entre rap et musique électronique. Donc voilà, c'est DJ Snake, c'est un peu une sorte de patchwork d'énormément d'influences, et c'est pour moi le symbole de la pop aujourd'hui. C'est-à-dire
la pop mondialisée.
Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de définir le son pop, puisque j'ai l'impression que moi, qu'un morceau de Rihanna aujourd'hui, ça va aussi bien chercher chez de l'afro-pop nigériane que chez de la trap latine, etc. Donc, Snake, c'est exactement le symbole de ça. Et quand on voit le track listing de ses albums, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est l'artiste global par excellence, je trouve.
Alors, ce morceau, bien sûr, il a sa petite histoire, hein, outre le fait qu'il a dépassé le milliard de vues, ouais. Je crois qu'il a 3 titres qui ont dépassé le milliard de vues, DJ Snake.
Oui, absolument.
Ce titre a été complètement partagé par le compte Twitter officiel de la Maison Blanche avec Michelle Obama, oui. Qui danse sur cette musique.
Mais ce morceau était un véritable phénomène. En fait, il faut se souvenir, c'est en 2013, si je dis pas de bêtises, et c'est un raz-de-marée, et il y a le morceau, il y a le clip également. Il y a le clip aussi qui est phénoménal et qui était qui est assez assez drôle, assez original, et je pense que c'est le morceau doit son côté phénomène aussi au visuel, et qui a et tout le monde dansait, et c'est aussi, vous savez, ça correspond aussi au moment où il y a le twerk, donc c'est cette danse assez sexualisée dans le milieu du rap qui est à la mode, et le clip parodie aussi beaucoup ça. Donc voilà, on est encore sur ces mélanges de références.
On est dans la parodie avec DJ Snake?
Non, pas la parodie. Mais le clip était assez drôle. Je parlais du clip, mais non, DJ Snake pas du tout, c'est pas de la parodie. Au contraire, je trouve que c'est quelqu'un qui est même très premier degré dans sa musique et qui fait ça avec beaucoup de respect, je crois, et qui connaît ses classiques et qui est un vrai enfant de tout ça.
William Greek Hassin, c'est ça son vrai nom?
Absolument.
Voilà, et justement dans une des très rares interviews de DJ Snake, et là en l'occurrence c'est pour le média web pour les jeunes, Combini, il raconte un peu ses sources d'influence.
J'ai une histoire, j'ai un background, j'ai grandi parmi plein d'influences. Mon père est français, ma mère est algérienne. J'ai grandi à Paris, on est tous mélangés, plein d'origines différentes, plein de styles différents. J'ai fait des soirées hip-hop, comme j'ai fait des soirées gay à Paris. J'ai fait des soirées coup de couteau et j'ai fait des soirées VIP à Saint-Tropez ou sur des yachts. C'est l'histoire de ma vie, en fait.
C'est l'histoire de ma vie, dit-il. Vas-y.
Belle vie, ouais. Belle success story. Mais c'est une success story vraiment à l'américaine, hein, justement. Donc c'est pas étonnant qu'ils vivent à Miami aujourd'hui et qu'ils se sentent, je pense, aussi pas mal américains dans son mode de vie. Mais bien sûr, il a beaucoup d'influence et je trouve que ça se ressent énormément. C'est-à-dire que moi, anecdote intéressante, il est très connu, DJ Snake. Il est venu me parler pendant le confinement sur Instagram parce que en fait, il a mis en place un battle entre rappeurs français. Alors qu'il est très loin du rap aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il pourrait être très loin du rap et il avait envie de célébrer ses icônes. En fait, pendant le confinement, il y a beaucoup de rappeurs américains qui ont fait un petit peu des battles, ça s'appelle des versus sur Instagram, où chacun jouait son répertoire et les gens pouvaient dire qui préférait Snoop Dogg et DMX, par exemple. Il a fait ça entre Sniper et la Funky Family, et qui sont des groupes mythiques, des groupes qui l'ont influencé. Et aujourd'hui, DJ Snake pourrait ne pas être intéressé par ça, pourrait s'intéresser à d'autres choses. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux partager? C'est important que la communauté rap aussi s'y retrouve. Et voilà, alors qu'il pourrait absolument ne plus être dans ces combats-là. Et justement, il avait lui envie de rendre
en plus que je suppose, m'a dit Maizy, que les rappeurs d'aujourd'hui doivent le voir comme un artiste commercial, plutôt techno que...
Ouais, c'est possible, mais je pense que les rappeurs d'aujourd'hui n'ont plus vraiment de problème avec le fait d'être commercial, au contraire. Donc là où il aurait pu peut-être essuyer des critiques dans les années 90, où il y avait vraiment des questions d'authenticité, effectivement le terme commercial était vu comme une insulte. Aujourd'hui, je crois que les gens sont beaucoup plus détendus avec tout ça.
Et quand il dit « je peux faire aussi bien les soirées coup de couteau que les soirées gays branchées de Paris ?»
Le rap a pas mal changé à ce niveau-là, et le public rap a beaucoup changé, et les rappeurs ont beaucoup changé. Je dis pas que tout va bien, etc., et que c'est radicalement différent, mais on est sur un public quand même qui est beaucoup plus diversifié et mix qu'avant. Donc mettre Snake dans le milieu du rap, c'est plus choquant aujourd'hui. Alors qu'il y a 15 ans, effectivement, peut-être que les gens seraient dit « attention, non, c'est pas du rap, effectivement, il est trop connu pour nous ». C'est des combats aujourd'hui qui sont plus vraiment présents dans le rap français.
To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Bieber, c'est ça, et c'est la musique de DJ Snake, Maizy. Voilà. Alors comment il fait? Est-ce qu'il travaille pour des maisons de disques? Est-ce qu'il travaille en s'adaptant au goût des interprètes, des majors?
Je pense que sa musique évolue, mais si vous regardez, à chaque fois, on trouve quand même une sorte de sonorité sur tous les gros tubes de DJ Snake. Donc, vous savez, les artistes américains, aussi gros soient-ils, ils veulent le dernier son à la mode. C'est quoi? Et DJ Snake, là, maintenant, c'est plus le producteur à la mode. Je veux dire, enfin, il est installé, c'est pas. Mais quand il commence à produire ces morceaux-là, il commence. Donc, il sort de Turn Down Forward, il sort de Linon également, qui est l'autre énorme tube qu'il a fait pour Major Lazer. Et donc, en fait, tous les artistes vont chercher le son de DJ Snake. Donc, c'est pas vraiment lui.
Mais comment le définir, ce son?
Bah, disons que pour moi, c'est un son qui est, il arrive à faire une production électronique qui a concilié, on va dire, électronique et mélodie, ces choses. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est pas très loin de la techno, en réalité. Il est pas très loin du rap non plus. Et donc, il arrive, je trouve, à rendre pop ces musiques-là qui souvent ne sont pas pop pour le grand public. Le rap et la techno, c'est des choses qui sont parfois un peu niches, parfois inaccessibles, parfois qui sont vues comme des musiques agressives. Et j'ai l'impression que lui, il a réussi à arrondir tout ça, à trouver une sorte de consensus musical avec des genres qui généralement ne sont pas forcément faits pour être pop. Et lui, il a réussi à les rendre pop.
Votre consoeur Stéphanie Binet du Monde met aussi en avant ses goûts, sa double culture, bien sûr, ouais. et ses goûts d'aller chercher dans les musiques africaines, arabes, indiennes. Et c'est ça qui l'aurait différencié des autres.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi, c'est l'artiste global par excellence. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est français, mais vit aux États-Unis, travaille avec des artistes de plein d'nationalités différentes et tout le temps en voyage, et pas juste pour voyager. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui s'immerge beaucoup dans ces cultures-là. Et absolument, sa musique, pour moi, c'est une sorte de patchwork de plein d'influences musicales. Et quand je dis influences musicales, je parle bien sûr de genres musicaux, mais je parle aussi effectivement de pays différents. Voilà, ces derniers tubes, Loco Contigo ou Taki Taki, c'est des morceaux de trap latine, de reggaeton en fait, et c'est très différent pour le coup de Turn Down For What qui faisait quelques années auparavant. Donc c'est quelqu'un qui bien sûr s'adapte, mais au fur et à mesure de ses voyages, au fur aussi à mesure de l'évolution de la musique. Et je pense que sa musique à lui, il a toujours sa patte, mais elle est pas figée. Il s'adapte aussi beaucoup aux dernières sonorités, aux dernières choses qui peuvent survenir dans la musique.
C'est un bidouilleur de son ou c'est un musicien, DJ Snake?
Non, c'est un bidouilleur. Je pense pas lui faire offense en dire ça, mais pour moi c'est un bidouilleur, c'est-à-dire que c'est un beatmaker, comme on le dit dans le rap, c'est un producteur qui travaille sur des machines. Alors pour moi, je vois pas de différence entre ça et un musicien, parce que c'est une nouvelle manière de faire de la musique qui maintenant est quand même commune depuis plusieurs décennies maintenant. Mais c'est pas quelqu'un qui vient du solfège, quoi. C'est quelqu'un qui vient, comme beaucoup de producteurs rap ou producteurs électroniques maintenant, qui vient des machines, qui a appris à faire de la musique avec des machines, en tapant sur des boutons et non pas en jouant du piano, quoi. C'est la grande différence, je pense, entre les producteurs de maintenant et ceux d'il y a 40 ou 50 ans. Mais oui, non, c'est un bidouilleur de studio, ouais, complètement.
Et c'est un showman, parce que ce fameux concert à Paris, le 22 février, à Bercy, je connais même plus le nouveau nom de Bercy, comment on l'appelle?
L'Accor Arena.
L'Accor Arena, absolument. Il y avait 40 caméras pour filmer ce concert. C'est à partir de ce concert qu'on verra donc ce film qui sera projeté dans quelques salles en France, Suisse et Belgique. Aujourd'hui, à 21h. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des danseurs, il y a une chorégraphie, il aime la scène, lui qui a été très très longtemps le petit garçon timide du hip-hop.
C'est vrai, et c'est quelque chose aussi que certains DJ peuvent lui reprocher. Parce que parfois, dans la tête de certains, être un showman et être DJ, c'est pas censé aller de pair. Souvent, le DJ, effectivement, il est dans l'ombre, il est pas forcément, il doit pas être mis sur un piédestal. Je sais que il y a deux grandes écoles chez les DJ. Soit, effectivement, on le met comme une rockstar, au milieu de la scène, ou alors, au contraire, c'est quelqu'un qui doit se fondre dans la masse et presque disparaître dans la foule. Snake, clairement, il disparaît pas dans la foule. Au contraire, il a toujours des tenues extrêmement colorées. Voilà, c'est un véritable showman, absolument. C'est une star aussi. Et je pense que ça joue aussi sur ça. C'est-à-dire qu'il y a sa musique, bien sûr, puis aussi le personnage qui va avec. Et aujourd'hui, DJ Snake, on le voit dans ses clips, etc. C'est quelqu'un qui est très mis en avant, et effectivement il adore ça. Et parfois certains DJ peuvent se dire oui, mais en fait il en fait trop, etc. C'est pas ça un DJ. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. En fait, tout dépend de comment on veut incarner sa musique. Mais effectivement, lui, il l'incarne frontalement. Et je pense que si on n'aime pas l'homme, on n'aimera pas un concert de Snake, parce qu'effectivement, il est très très présent.
Qui va voir les concerts de DJ Snake? Est-ce que c'est vraiment la planète ado ou ça s'est élargi?
Quand on a les chiffres de DJ Snake, on parle à tout le monde, en fait. Hein. On va, c'est des familles qui viennent voir DJ Snake. C'est pas juste des gens qui ont 18 ans qui vont à un concert comme en boîte de nuit. Pas du tout. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte, quand on voit les chiffres de DJ Snake, que c'est pop, c'est vraiment un artiste extrêmement pop, même s'il fait pas de la soupe, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui touche absolument tout le monde. On a tous déjà entendu un morceau de DJ Snake, on a tous déjà entendu Linon, que ce soit dans un club branché ou au camping ou au camping où on va en vacances. Donc c'est quand on arrive dans ces sphères-là, tout le monde peut potentiellement aller voir un concert de DJ Snake, comme on peut aller voir Rihanna ou Beyoncé. Aujourd'hui, Snake, il est dans cette catégorie-là d'artiste. C'est ça qui est assez fou aussi.
Il assume son côté français.
Absolument. Oui, parce que le coup, c'est quelque chose qui est très important pour lui.
Et le fait qu'il ait grandi dans le Val d'Oise, c'est-à-dire en banlieue parisienne.
Il a appelé ses albums Encore et Carte Blanche. Alors, c'est des termes français qui sont compris à l'étranger, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Paris est très, très importante pour lui. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui revendique à fond et qui met énormément en avant.
On va écouter un dernier morceau de DJ Snake.
Tu me Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo.
Okay, okay. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela.
Mehdi Maizi, vous qui êtes spécialiste des musiques urbaines, le rap, mais pas seulement, la musique de DJ Snake, par exemple, quand vous écoutez un morceau, vous savez tout de suite que c'est lui? Parce que,
oui.
Parce que moi j'ai l'impression que cette musique est un de ces tubes. Bah, j'ai écouté déjà 36 000 fois de 36 000 manières. Non.
Peut-être que c'est celle-ci que vous avez déjà entendue.
Ouais, peut-être.
Parce que ça passe en boucle. Non, bah, après, je sais pas si c'est une oreille avisée, mais non, je crois quand même qu'il y a vraiment une patte DJ Snake. Et que si on a l'impression parfois d'avoir entendu des choses qui ressemblent, honnêtement, souvent c'est parfois des choses qui sont inspirées de ce que lui a fait auparavant. Sans dire qu'il a inventé la musique actuelle, pas du tout, mais en tout cas, c'est vraiment le chef de file de ce type de morceau-là. Donc après, sur ce morceau-là en particulier, c'est quand même quelque chose effectivement qui est inspiré du reggaeton, etc. Donc je vais pas dire qu'il a inventé ça, j'ai tous les fans de reggaeton qui vont m'insulter, mais ce que je veux dire c'est qu'il a une patte, je trouve, dans la production qui fait que c'est lui et c'est pas un autre compatriote.
Est-ce que vous allez voir le concert de DJ Snake?
Oui, donc bien sûr, ouais, je vais le voir ce soir, absolument.
Pour terminer, DJ Snake n'est pas raccordé à une tendance, à un mouvement. On n'a jamais dit qu'il fait partie par exemple de la French Touch ou
Non, mais la French Touch pour le coup c'était vraiment quelque chose qui était très présent, je pense, à la fin des années 90, début 2000. Aujourd'hui c'est compliqué de parler de French Touch puisque la musique électronique française elle est très présente mais peut-être un peu plus éclatée. Donc non, c'est vrai, mais aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui a l'air dans son storytelling, il est assez seul. Et donc il y a quelque chose aussi, c'est voilà, on parle de sa success story à lui, de son parcours à lui. C'est pas comme s'il y avait une école derrière lui, c'est pas comme s'il y avait un collectif avec lui. Pourtant il est membre d'un collectif de DJ, etc. Mais je trouve que dans le storytelling de Snake, c'est vraiment lui et un peu lui seul. Donc il n'y a pas vraiment de mouvement autour de lui. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de sa musique dans le monde, mais pas forcément en France, etc. Donc c'est plus, j'ai presque l'impression que moi, dans sa manière de te raconter, c'est d'abord le triomphe d'un homme avant d'être celui d'une génération, comme c'était le cas avec la French Touch, où bien sûr il y avait les Daft Punk, mais il y avait aussi beaucoup d'autres gens qui perçaient au même moment, quoi.
Maizi, merci beaucoup d'être passé ce matin pour nous expliquer un peu qui est ce grand phénomène qui est DJ Snake. Et on peut voir donc le concert parisien de DJ Snake, le concert événement au cinéma dans quelques salles, seulement aujourd'hui et à 21h. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Le Réveil Culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
On se retrouve demain, et demain, comme tous les vendredis, on parlera de bande dessinée, et j'accueillerai Simon Hureau pour sa bande dessinée L'Oasis, éditée chez Dargo.
D'ouverture.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Dans l'actualité, tous les événements ne se valent pas. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut choisir ses thèmes, mais aussi ses invités pour sortir du flot des commentaires et permettre à un vrai débat de s'installer. C'est ce que tentera de faire chaque soir le temps du débat en faisant se rencontrer le monde des idées et les acteurs de terrain.
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin, de lundi à vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
L'histoire s'écrit tous les jours sur France Culture. Xavier Mauduit.
Ce fut une explosion gigantesque. Une ville, un peuple ont été blessés et même au-delà. Pourquoi une telle émotion ? Le cours de l'histoire fait escale dans un port millénaire, Beyrouth, au Liban. Combien de fois cette ville a-t-elle été meurtrie pour toujours se relever ? De l'antique port phénicien au grand Liban français, de la ville mémoire à la guerre civile, Beyrouth est une ville qui ne cesse de se construire et de se reconstruire.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les programmes scolaires ne doivent pas s'adapter à l'éventuel retard pris par les élèves pendant le confinement. Le ministre de l'Éducation nationale s'est montré clair hier. Nous avons demandé aux syndicats ce qu'ils en pensaient. Parole donnée aussi dans ce journal à un habitant de Louisiane. Il attend inquiet l'arrivée de l'ouragan Laura sur l'État américain d'ici quelques heures maintenant. Les vents rappellent ceux des ouragans Christina et Rita en 2005. Retour également sur le procès en appel du boucher de Bosnie, Ratko Mladic. Hier, l'accusé a expliqué qu'il était un soldat professionnel, qu'on ne pouvait pas le condamner pour ses crimes entre 92 et 95. Et puis, nous nous intéresserons dans cette édition au lobbying autour de la taxonomie verte, ou comment faire en sorte d'être bien classé par l'Union européenne malgré ses émissions de gaz à effet de serre. Explication dans moins de 10 minutes. Les programmes scolaires cette année ne seront donc pas modifiés. Qu'importe l'impact qu'a eu le confinement et la crise sanitaire, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer l'a confirmé hier après-midi au grand regret des syndicats, Hakim Kasmi.
Même si Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'avec le confinement, certains élèves ont pu prendre du retard, pour le ministre de l'Éducation, pas question pour autant de modifier les programmes à la rentrée pour rattraper le temps perdu. Malgré le contexte sanitaire actuel, il confirme que les évaluations prévues le 14 septembre auront bien lieu, les évaluations qui sont désormais la règle, en CP, CE1 et 6e, ce qui risque d'accroître les inégalités, selon Sophie Vénézité, secrétaire générale adjointe du SNES.
On a des élèves là qui ont besoin de revenir dans l'établissement en confiance, qui ont besoin de reprendre des habitudes de travail collectif, et si on n'a pas le temps et les moyens de faire ce travail-là, des élèves vont se trouver en difficulté, encore plus en difficulté qu'aujourd'hui, et ça va être aussi un travail extrêmement compliqué pour les professeurs, puisqu'il va falloir être tiraillé entre cette idée que oui, on a des élèves et on veut s'en occuper parce qu'on veut tout de suite les mettre dans de bonnes dispositions, et en même temps l'impossibilité de le faire parce que le ministre nous parle plutôt de tests, nous parle plutôt de programmes à finir à tout prix, et ça va aussi nous poser problème en tant que professionnels.
En contrepartie, le ministère prévoit des heures de soutien, notamment pour le dispositif Devoirs faits au collège. Rappelons que d'après le ministère, 5% des élèves ont décroché pendant et après le confinement, un chiffre qui atteint même les 34% en zone d'éducation prioritaire.
Et j'ajoute qu'à l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a empêché au moins un tiers des élèves de la planète de bénéficier d'un enseignement faute de pouvoir le faire virtuellement. En France, le protocole sanitaire prévoit l'éventuelle fermeture de classes ou d'établissements sur décision des préfets et des directions régionales de santé. Un virus qui se propage toujours dans le pays. Hier, 5000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures en France. Ce chiffre est au plus haut depuis la mi-avril. Dans les Bouches-du-Rhône, les bars et les restaurants ont dû fermer. Mais hier soir à 23h et jusqu'à 6h ce matin, c'est la même chose pour ces prochaines semaines. À Marseille plus particulièrement, le port du masque est bien obligatoire depuis hier soir. Quant à la ville de Paris, sachez qu'elle a été ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage et à une période d'isolement. Des vents jusqu'à 230 km/h, une montée des eaux qui pourrait atteindre les 6 mètres de haut. La Louisiane et le sud du Texas se préparent à affronter l'ouragan Laura. Il a été renforcé en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5 et il fait trembler Joseph Dunn. Il travaille dans le tourisme en Louisiane et il se souvient des précédentes tempêtes.
On parle beaucoup de Katrina, mais la tempête que tout le monde a tendance à oublier, c'était Rita, qui était juste après, en septembre 2005, et c'est à l'échelle de Rita, en fait, qui était un ouragan beaucoup plus fort que Katrina, par les vents et par la dévastation à l'intérieur du pays. On parle de Katrina parce que à la Nouvelle-Orléans, ce sont les digues qui ont lâché, qui ont inondé la ville. Mais Rita, qui était en septembre 2005, a touché justement cette région de l'État, le sud-ouest, vers Lac Charles, et c'était une vraie catastrophe. Ça m'inquiète beaucoup. parce que cette tempête est énorme et les dégâts seront considérables, même bien à l'intérieur du pays. On va ressentir cela jusqu'à Shreveport, ce qui est à 5-6 heures de route de la zone côtière.
Des propos recueillis par notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. L'acte est aussi fort qu'inédit dans le sport professionnel américain. Un club de basketball en NBA a boycotté un match hier soir. Idem pour certaines équipes de baseball et pour une joueuse de tennis à Cincinnati. Tout le tournoi de tennis est donc suspendu en cette fin de semaine. Toute la NBA est à l'arrêt. Il s'agit en fait d'une mobilisation de soutien à Jacob Blake, homme de 29 ans, afro-américain, victime de 7 balles tirées dans son dos par un policier dimanche. Il pourrait rester paralysé. Hier soir, une nouvelle manifestation avait lieu sur place dans le Wisconsin à Kenosha. Le tueur des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande a été condamné cette nuit à de la prison à vie, sans possibilité de libération. Une décision du tribunal saluée dans la foulée par la première ministre du pays, Jacinda Ardern, qui souhaite à l'auteur de la tuerie, un Australien, une vie de silence total et absolu. Il y a un an et demi, l'homme avait assassiné de sang-froid 51 fidèles musulmans dans des mosquées néo-zélandaises pendant la prière du vendredi. À La Haye, maintenant, se tient le procès en appel de Ratko Mladic, un ancien général surnommé le boucher de Bosnie. Il avait été condamné à de la prison à vie en 2017 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pendant le conflit en Bosnie entre 92 et 95. Devant la cour en appel, sa défense assure ces derniers jours qu'il était très loin de Srebrenica au moment des faits. Et hier, Ratko Mladic a pris la parole à la toute fin de l'audience. Laxmi Lota nous raconte.
J'aimerais dire quelque chose au nom du peuple serbe. C'est ainsi que Ratko Mladic débute ses propos qui doivent durer, selon l'ancien général, 30 minutes. Mais la cour lui rappelle qu'il n'en a que 10. Ratko Mladic pointe ensuite du doigt la procureure en la désignant comme, je cite, « cette femme blonde ».
Cette dame blonde, pour l'appeler ainsi, qui, pendant 2 jours, a parlé de moi en utilisant un langage de serpent, de diable.
Ratko Mladic remet en cause le tribunal, affirmant qu'il est l'enfant des puissances de l'Ouest. L'accusé explique qu'il était un soldat professionnel et qu'on ne peut pas le condamner.
Chère madame, je ne suis pas un saint, je suis un homme ordinaire. C'est ce que j'ai dit pendant la guerre. Mon destin m'a amené à défendre mon état.
Alors que la juge lui indique que son temps de parole est écoulé, l'ancien chef militaire lance « Je suis en vie et en bonne santé, votre accusation est tombée à l'eau ». Pendant ce procès en appel, on a vu l'homme de 78 ans se recoiffer, souvent. Il n'a jamais reconnu ses responsabilités dans les crimes commis. La décision du tribunal est annoncée pour le printemps prochain.
C'était Laxmi Lota pour France Culture. Le commissaire européen au commerce démissionne. L'Irlandais Phil Hogan a finalement été emporté par sa participation à un dîner de gala en Irlande. 80 personnes se sont réunies la semaine dernière pour faire la fête en dépit des restrictions sanitaires anti-coronavirus. Le commissaire européen au commerce irlandais y était, ainsi que le ministre de l'Agriculture en Irlande. Il avait lui déjà démissionné il y a quelques jours. Nous en venons maintenant à ce rapport de l'ONG Reclaim Finance qui vient d'être publié. Cette ONG dénonce l'armée de lobbyistes spécialistes du gaz et du nucléaire qui gravitent toujours autour des fonctionnaires de la Commission européenne. Ces ONG spécialistes bataillent pour obtenir un label d'investissement vert de la part de l'Union européenne. Une bataille d'autant plus rude en ce moment que le temps leur est compté, Annabelle Grelier.
C'est à la fin de l'année que devront entrer en vigueur les règles européennes des investissements durables concernant le climat, ce qu'on appelle la taxonomie verte, soit un outil de classification des activités économiques non polluantes. Dans les recommandations finales émises en mars dernier par le groupe technique d'experts auprès de la Commission européenne, le gaz et le nucléaire n'y figuraient pas. Une décision qui avait été saluée par les écologistes, mais dans la dernière ligne droite, la donne pourrait encore changer. La Commission européenne vient en effet de lancer une expertise supplémentaire sur le nucléaire, ainsi qu'une nouvelle plateforme d'experts pour le gaz, qui pourrait aboutir à considérer des projets de centrales ou de gazoducs comme énergie de transition et donc les réintégrer dans la taxonomie. Des milliards de financements publics et privés sont en jeu avec la taxonomie, confirme Reclaim Finance. Pas étonnant que les lobbies du gaz et du nucléaire viennent frapper à la porte des décideurs européens tous les trois jours et dépensent des millions d'euros par an pour en faire partie, dénonce l'ONG dans son rapport. Elle révèle notamment que dans les quatre derniers mois, les 825 lobbyistes du gaz et du nucléaire ont obtenu pas moins de 52 rendez-vous avec des décideurs européens. Des lobbyistes en passent d'entrer dans ces nouvelles commissions d'experts. L'ONG tient à alerter l'opinion publique sur le poids croissant de leur influence et appelle les dirigeants européens à couper les ponts avec les lobbies des énergies fossiles afin de respecter leurs promesses en matière d'environnement et développement durable.
Les lobbies du gaz et du nucléaire qui se déchaînent donc à Bruxelles. Des explications d'Annabelle Grelier à retrouver dans la matinée sur notre site franceculture.fr. La pluie arrive par le nord-ouest ce jeudi sur la Bretagne et sur la Normandie. Ailleurs, le soleil devrait briller encore avec des températures homogènes. 15 à 16 degrés au nord de la Loire, 19 à 24 au sud. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous vous penchez ce matin dans votre journal des idées sur la crise du Covid-19. Elle a mis notre confiance à rude épreuve envers les consignes sanitaires, parfois confuses ou contradictoires, envers les autres et envers nous-mêmes comme vecteur potentiel de l'épidémie.
Nous regardons nos mains, Clara, et nous ne voyons plus en elles le prolongement de notre corps, la capacité qu'elles ont d'appréhender, de toucher, de saisir ou de caresser, mais un agent possible de contamination, observe Christian Salmon dans un texte sur les paroles gelées de la coronaration publié sur le site AOC. On ne doit plus rien toucher, pas même son propre visage. Sortir de chez soi est une opération de funambulisme où le toucher prohibé peut nous mettre en danger. Une sorte de vertige du tactile se déploie là, vertige du sensible, car tous nos sens ont perdu leur évidence, leur familiarité. Ils sont en alerte, montent la garde contre l'intrusion du virus. Nos gestes devenus barrières, nous sommes emmurés dans notre moi, gagnés par la contamination, devenus étrangers à nous-mêmes. L'écrivain spécialiste du storytelling cite le théoricien de la guerre Clausewitz qui a forgé l'expression « brouillard de guerre » pour désigner le climat d'incertitude qui prévaut en temps de guerre. Et il décrit la crise du langage que répercute ce brouillard compact. Elle provoque des collisions d'oxymores ou crée des métaphores qui ont la forme de lapsus, des dénégations qui ne trompent personne et des actes de langage qui échouent piteusement à la tribune des parlements. C'est pourquoi le mensuel Philosophie Magazine s'emploie aujourd'hui à réhabiliter la notion de confiance. Alexandre Lacroix rappelle qu'elle est proportionnelle au degré de proximité, famille, amis, collègues. Et dans un monde où les moyens de communication ou les réseaux sociaux mettent en relation des individus éloignés, la confiance tend à se diluer, voire à se dissoudre comme incarnation du lien social. Et comme le climat actuel est à la défiance, la paranoïa des autres tend à amplifier la mienne, dit-il. La défiance est au sentiment de liberté ce que la jalousie est à l'amour, affirmait Robespierre. Marc Hunyadi défend la confiance comme le lien social le plus élémentaire. Lorsque nous conduisons, nous ne ferions pas 100 mètres si nous n'avions pas spontanément confiance dans le comportement des piétons et des autres automobilistes. La confiance est un pari sur les comportements attendus, souligne le philosophe, qui parle d'une structure d'attente. La confiance est une manière de pallier le déficit d'information, de réduire l'incertitude, dit-il aussi, et il estime que cette pandémie nous a montré par défaut que la confiance innerve l'ensemble de nos relations. Elle n'est donc pas simplement un rapport au risque, comme voudrait le faire croire la pensée économique dominante, mais bien un rapport au monde. C'est sans doute à cette ressource à la fois intime et sociale que fait allusion Corinne Peluchon dans l'hebdomadaire Le 1, consacré cette semaine à l'avenir masqué. Le masque est un effort minimal qui ne nous fait pas renoncer à notre liberté, dit-elle, mais nous permet de prendre conscience de notre appartenance à un destin collectif, une situation qui nous oblige à nous sentir responsables de ce dont nous ne sommes pas coupables, ajoute la philosophe. Et pour l'éditorialiste Robert Solé, le port du masque permet de découvrir le plus sincère des sourires, celui qui se fait avec les yeux. Encore une couche avec Marguerite Yourcenar. Le bien comme le mal est affaire de routine. Le temporaire se prolonge, l'extérieur s'infiltre au-dedans et le masque à la longue devient visage. Reste le sentiment de défiance. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, notre pays a perdu beaucoup de temps et d'énergie sur la question des masques. Les propos contradictoires du gouvernement au printemps, essentiellement pour dissimuler la pénurie en dépit du bon sens scientifique, ont brouillé le discours qu'il fallait tenir dès le départ sur leur utilité. Elle estime que le port du masque dans l'espace public est nécessaire et il devrait l'être partout dès que l'on sort de chez soi, dès lors qu'il y a des croisements de population, et en s'épargnant les arguties actuelles pour savoir s'il faut le porter dans telle rue et non dans telle autre. Mais en affirmant le 4 août dernier que l'avenir de l'épidémie à court terme est en grande partie entre les mains des citoyens, le Conseil scientifique fait porter la responsabilité de la santé collective sur les individus, car le port du masque, s'il est nécessaire, n'est certainement pas suffisant pour enrayer une seconde vague. L'épidémiologiste, qui fut l'un des soutiens de la lanceuse d'alerte Irène Frachon dans l'affaire du Mediator, souligne que la dynamique est aujourd'hui à une reprise de l'épidémie, encore douce mais continue, comme en témoigne l'augmentation de 50% des admissions en réanimation depuis la mi-juillet. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon. Bonjour.
Bonjour.
Nous n'avons pas de masque.
Non, pas en studio.
On se voit sourire. Au sommaire aujourd'hui, Julie, en Tunisie, un gouvernement de technocrates.
Oui, l'année dernière, à l'occasion des législatives, on s'était engagé dans les enjeux internationaux à suivre la transition politique en Tunisie qui se poursuit cas à cas au-delà du printemps arabe. C'est d'ailleurs le seul pays touché par ce vent nouveau qui ait gardé le cap de la transition. Vous savez qu'en Syrie, au Yémen, en Libye, les expériences révolutionnaires se sont soldées par la guerre civile. Vous savez que l'Égypte a été reprise en main par l'armée. En Algérie, où il n'y a pas eu de soulèvement en 2011, mais l'année dernière, le Irak, il y aura bien le 1er novembre un référendum sur une nouvelle constitution, mais le texte consacre la suprématie du président et le pouvoir des militaires. La Tunisie reste donc une exception pour l'instant. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a dévoilé mardi la liste des 28 personnes qu'il souhaite avoir au gouvernement. Nous sommes en ligne depuis Tunis, où il est 5h46. Bonjour Amine Benmami. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'IEP d'Aix-en-Provence et à l'ENS. Vous êtes attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille. Alors le Premier ministre était chargé de composer un gouvernement de technocrates, expression négative ici en France, mais revendiquée par lui. Il dit aussi gouvernement de compétences. Où est-il allé les chercher, ces compétences ?
Alors, il faut savoir tout d'abord qu'en fait, fondamentalement, normalement, l'initiative de la formation du gouvernement vient du principal groupe à l'Assemblée. C'est-à-dire que normalement, c'est le groupe dominant à l'Assemblée, Narda, le premier groupe, qui propose un nom qui va lui former un gouvernement. Mais par le truchement des rapports de force au sein du Parlement, il n'en a pas été ainsi. Et ça explique pourquoi Hichem Mechichi veut constituer un gouvernement à partisans formé de compétences. Avec le mot d'ordre étant pour lui de former un gouvernement de concrétisation sociale et économique. Ou en gros, dans un contexte de crise économique et sociale aiguë, renforcé par la crise sanitaire, il s'agit en fait de sortir des batailles partisanes pour chercher plutôt du côté des proches, on va dire, de Mechichi et surtout du président de la République. Donc en gros, si on analyse la composition du gouvernement, on voit deux choses. D'un côté, on voit qu'il y a beaucoup l'entourage de Kais Saied. Hichem Mechichi, déjà, c'était le ministre de l'Intérieur.
Kais Saied, c'est le président tunisien, élu Absolument. L'année dernière.
Absolument. Du coup, il y a Hichem Mechichi, déjà, c'était le ministre de l'Intérieur du gouvernement précédent, qui a été plus ou moins proposé par Kais Saied, parce qu'il était conseiller juridique de Kais Saied. Il y a beaucoup de, dans la même logique, en fait, dans le gouvernement actuel, il y a beaucoup de gens qui viennent du cabinet présidentiel. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères, qui a déjà été aux Affaires étrangères par le passé, est quelqu'un qui était au cabinet du président, et de même, beaucoup de gens sont des proches du président. C'est-à-dire que, il faut savoir qu'en Tunisie, le ministère de l'Intérieur est un ministère très important, comme dans tous les pays, d'ailleurs, puisque c'est le cœur de la puissance régalienne. Ici, là, c'est quelqu'un qui a été au cœur de l'organisation de la campagne de Kais Saied, notamment à Sousse.
Après, il y a aussi, pour le reste du gouvernement, donc 28 personnes en tout, des techniciens, en fait, c'est ça, des universitaires aussi, des cadres.
Si vous voulez, en fait, il y a deux types de profils. Il y a d'un côté les grands commis de l'État qui ont des profils proches de Saïed et qui semblent proches fondamentalement de lui et de son Premier ministre. C'est-à-dire des gens qui sont magistrats, qui ont notamment été formés à l'ENA. l'ENA, qui a été une institution qui ressemble à celle française, mais qui longtemps a été marginalisée dans le gouvernement tunisien. Donc d'une part, on a ces profils, notamment dans les ministères de la Justice, de l'Intérieur, etc. Et de l'autre côté, on a des ministères techniques et des super ministères qui ont été constitués à l'occasion pour faire face à la crise, en fait. Notamment un super ministère de l'économie, des finances et du soutien à l'investissement, ou un ministère qui regroupe l'agriculture, la pêche et les ressources hydrauliques.
Alors, Amine Benmami, c'est vrai qu'ici en France, on dirait un gouvernement technocrate, on n'en veut pas, on veut des personnes qui connaissent la vie, qui ont été en prise avec la vie quotidienne des Français, qui ont été élus parfois à l'échelon local d'abord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu en Tunisie ce besoin d'aller chercher du côté des hauts commis de l'État, des hauts fonctionnaires? Pourquoi cette défiance vis-à-vis des politiques et des partis tunisiens?
Bon, il faut savoir qu'on est déjà dans un contexte d'apathie et de défiance profonde vis-à-vis des politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un sondage qui est paru ce mois-ci qui donne seulement 3% d'opinion très favorable au parti et 7% à l'institution parlementaire. Et on est dans un contexte où les principaux chefs de parti ont des opinions à hauteur de 60% très défavorables, alors que le président reste intact, 54% d'opinion favorable. Et ça vient dans un contexte où, en fait, malgré les oppositions idéologiques de façade, souvent réactivées, en fait, durant les élections, entre islamistes, modernistes, etc., fondamentalement, une fois installés sur les bancs du Parlement, ces partis ont eu tendance à s'entendre, en fait, et à faire passer des mesures impopulaires qui les ont tendanciellement coupées de leur base. Et donc, on a affaire à un président, Kais Saied, qui essaye de reprendre la main et qui présidentialise d'une manière un peu bizarre le régime, parce que le régime n'est pas présidentialiste, en nommant son propre homme, entre guillemets, comme Premier ministre, et en se targuant de sa légitimité populaire. Si vous voulez, le président qui a été élu en 2014 était élu avec 1 700 000 voix, ce qui était déjà pas mal. Celui-là a été élu avec 2 700 000 voix, avec un écho populaire certain, incroyable, malgré le fait qu'il n'ait aucune assise partisane.
Voilà, les élus notamment, il faut rappeler, un constitutionnaliste austère qui promettait une révolution légale avec un projet notamment de démocratie directe, donc Kais Saied. Donc personne dans ce nouveau cabinet issu d'un parti politique quel qu'il soit, notamment de l'un des deux grands groupes parlementaires issus des législatives de l'année dernière, que ce soit le parti Ennahda que vous avez cité et dont on ne sait plus s'il faut dire islamiste, musulman, démocrate ou conservateur, mais aussi Kalb Tounes, la formation de Nabil Karoui, ce publicitaire mania des médias, on en avait beaucoup parlé, qui était en prison pendant la campagne présidentielle. Qu'est-ce que ça laisse présager, le fait qu'aucun de ces groupes parlementaires ne soit représenté en fait, dans le gouvernement? Qu'est-ce que ça laisse présager de l'action politique dans les mois qui viennent? Pour chaque vote, il faudra construire une majorité.
C'est une excellente question, d'autant qu'en fait, je vous remercie de poser les choses de cette manière, d'autant que le gouvernement précédent, qui est le premier qui a vraiment réussi à se constituer et à agir malgré la crise du coronavirus, c'est un gouvernement à l'initiative, encore une fois, de Kais Saied, qui s'est arrêté à cause des lignes rouges Ennahda avait voté la confiance pour ce gouvernement, mais au moment où ce gouvernement commençait à mettre en place des mesures qui le désobligeaient, notamment en termes de réforme administrative, Ennahda commençait à voter la défiance. Et c'est pour ça que le gouvernement précédent est tombé. Du coup, on se retrouve avec un gouvernement qui perd ses assises partisanes, parce qu'il y avait des assises partisanes par le passé, et là, qui veut se constituer avec des compétences, tout en étant soutenu par le gouvernement. Donc, c'est une conjonction, une conjonction assez
délicate
dans le sens où... Oui.
Et le Parlement, il doit voter ou non sa confiance pour le nouveau gouvernement? Ce sera mardi prochain, le 1er septembre. Voilà, on dit qu'aucun des partis en présence n'aurait intérêt à ce que soit à nouveau convoqué des élections, mais on verra bien ce qui se passe mardi prochain. Les partis sont mécontents de ne pas avoir été convoqués, de ne pas avoir été sollicités pour ce gouvernement. Mais qu'ont-ils fait, eux, en une année au Parlement pour améliorer le quotidien des Tunisiens à moyen et long terme? Notamment, le pays traverse une crise économique et sociale, 18% de chômage. Qu'est-ce qui a été fait pendant un an?
Bon, c'est difficile de juger dans le sens où en un an, il y a eu du coup des élections. Et du coup, une période d'instabilité électorale assez longue depuis le décès de Béjikai Dessepsi, l'ancien président, l'août dernier. Mais bon, les réalisations législatives ont été un peu bloquées par le fait qu'on n'a pas eu de gouvernement assez longtemps, en fait, de novembre jusqu'à fin février 2020. Du coup, on a eu un gouvernement d'affaires courantes assez longtemps. Après, il y a eu quelques réalisations. Disons que le gouvernement ainsi que l'Assemblée ont quand même relativement bien géré la crise sanitaire. Et ça fait que dans les sondages d'opinion, on a une certaine confiance des Tunisiens vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du ministre de la Santé et de la Santé publique en général. Mais après, il est encore tôt pour juger, mais a priori, le corps politique part avec une OPF. L'opinion est relativement défavorable, notamment alors que il va y avoir une renégociation des accords avec le FMI en fin d'année et que cela présage une loi des finances qui va encore sans doute susciter des troubles comme chaque année au début de l'année suivante.
Le volume de la dette publique tunisienne a atteint à peu près 74% du PIB. Il faut donc renégocier les conditions d'emprunt auprès du FMI. Contrairement à l'Algérie où le projet de constitution qui sera soumis au vote le 1er novembre consacre les pouvoirs du président, son rôle central, là le président tunisien il a des prérogatives beaucoup plus réduites, recentrées sur deux grandes questions, la sécurité nationale et les affaires étrangères. Mais je disais qu'Aïs Saïed il avait un projet de démocratie directe et notamment un projet de décentralisation dans un pays très jacobin, un État très centralisé. Qu'a-t-il peut-être commencé déjà à mettre en place et est-ce que la Constitution lui permet d'aller plus loin ?
Dans le contexte actuel, il n'a pas fondamentalement le projet de Kais Saied, c'est notamment faire une proposition de loi pour repenser la manière dont l'instance législative est élue. Et notamment constituer des conseils locaux qui éliraient des élus révocables pour l'Assemblée nationale. Du coup, repenser complètement l'architecture législative en Tunisie. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'il est plutôt dans un rapport de force, et ce qui explique l'investiture de Meschichi, dans un rapport de force avec ce qu'il appelle le système partisan. Et le gouvernement actuel, il faut le comprendre dans un contexte où il y a une sorte de bras de fer qui se joue entre le président de l'Assemblée, qui est également le président du parti Ennahda, donc le parti islamiste, et Kais Saied. Avec l'idée, Kais Saied a eu un mot assez fort quand il a été interrogé par le journal Le Monde, où il disait « je n'aime pas qu'on marche sur les pieds ». Où il était clairement... les mots s'adressaient clairement à Nada et à son président, en fait.
Merci beaucoup. Oui, Amine Benmami, c'est la fin de cet entretien. On n'a pas eu le temps de parler aussi de votre thèse qui porte sur les associations qui surveillent le processus électoral et parlementaire, associations qui se sont beaucoup mobilisées pendant la crise sanitaire pour aider sur le terrain et aussi pour veiller à la transparence de l'activité administrative et parlementaire sur toute cette période. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Amine Benmami, et je vous souhaite une bonne journée.
Je vous remercie. Bonne journée à vous aussi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr. Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture. Des grands thèmes d'actualité déclinés tout au long de la semaine, une approche comparatiste pour saisir la diversité et la complexité du monde, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, l'américanisation est en marche.
Et ça passe par la salade niçoise, m'explique. L'un des marronniers, l'une des tartes à la crème dans les médias, est de guetter l'arrivée en France des outrances d'outre-Atlantique, particulièrement les conséquences du politiquement correct. Par exemple, l'appropriation culturelle. Alors l'appropriation culturelle, Julie, c'est cette pratique qui consiste à faire sien un élément venu d'une autre culture, alors parfois sans le dire, parfois aussi en la malmenant. Or donc, le télévisuel cuisinier Cyril Lignac a été accusé de s'être culturellement approprié la salade niçoise. Alors, bon, l'accusation n'a pas été exactement formulée ainsi, mais enfin, des Niçois ont reproché à cet homme né assez loin de la baie des Anges, à Rodez, j'ai regardé, d'avoir profondément dénaturé la salade niçoise. Songez donc que ce chef propose une salade niçoise dotée de 17 ingrédients parmi lesquels on en trouve 11 qui ne devraient pas y être, j'ai noté Julie, les haricots verts, la pomme de terre et même un crumble de parmesan. Fureur à Nice, protestation le dit, Cyril Lignac a finalement remisé cette recette en toc, quitte à la resservir peut-être plus tard en l'appelant salade rhodésienne, puisque je vous rappelle, Julie, qu'il est né à Rhodes. Tout cela rappelle ce scandale intervenu dans la cafétéria d'une université américaine, un scandale rapporté par Laurent Dubreuil, un professeur qui enseigne aux États-Unis, le scandale du banh-mi. Des étudiants accusaient la cafétéria d'appropriation culturelle en raison d'un banh-mi piètrement réalisé selon eux, le banh mi étant un sandwich vietnamien lui-même issu de la période coloniale. Comme son nom l'indique, il rappelle notre pain de mie. Là aussi, le verdict a été simplement plus de banh mi, comme chez Lignac, plus de salade niçoise. Alors, il est trop tôt pour savoir si cette controverse saladière annonce un vent de furie sur la France, où l'on s'empoigne gentiment depuis des décennies pour savoir si on peut appeler cassoulet un plat qui ne contient pas d'haricots tarbets, sans que cela nous empêche de faire passer le brie du frigo à la table pour le servir bien plâtreux, ou de noyer le risotto aux fruits de mer sous le parmesan. Tout ça pour dire que jusqu'à présent, on n'en faisait pas une salade, mais si les choses venaient à changer, eh ben ça va devenir difficile même de faire une salade.